Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée aujourd'hui « Quelques images de novembre en Basse Marche ». Ce sera notre 337e émission et notre 195e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Alors Charles Sylvestre, Le Voyage rustique, Prodige du cœur, Au soleil des saisons et Paupières closes. Jean Blanza, La Gartempe et Le Faussaire. Louis Peignot, Au pays des bruyères et des étangs. Georges Deschera, La légende du chasseur et Paul Lavergne, Printemps.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
On me laisse mes souvenirs, qu'on me laisse mes amours mortes. Il est temps de fermer la porte, il se fait temps d'aller dormir. Je n'étais pas toujours bien mise, j'avais les cheveux dans les yeux. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois bien qu'il m'aimait un peu. Il pleut.
Comme vient de nous le chanter Anne van der Love, le mois de novembre est le mois des pluies. C'est ce que vont nous confirmer nos romanciers et poètes de la Basse Marche, Charles Sylvestre, Jean Blanza ou Paul Lavergne. Et d'abord Charles Sylvestre, un extrait du Voyage rustique. Il pleut. Je me mets en route. Les pierres, les fougères mortes brillent sous la pluie malgré le ciel embrumé. Au loin, des corbeaux ressemblent à de lourdes feuilles très noires, emportées par un souffle mystérieux, arrachées à des arbres cachés et sinistres. L'armée des topinambours noirâtres, décimée, est encore debout. Des parcelles d'or luisent sur ses défroques. Tout le paysage se rouille, couleur de limaille oxydée. Ça et là, au bord des talus, des genêts d'un vert neuf se pressent. Les prairies noyées s'assombrissent dans cette solitude envahie par le grondement des sources. Des pommiers, dépouillés, laissent voir des boules de gui, amas de perles hérissées de petites ailes rigides. Le chemin descend vers la rivière, elle roule, toute gonflée et limoneuse, la pluie la couvre d'un incessant grouillement d'insectes. Poursuivons toujours avec Charles Sylvestre, mais cette fois c'est un extrait de Prodige du cœur. De grandes pluies sortirent de l'ouest, portées par des nuages pesants qui se succédaient sans cesse. On entendait la mystérieuse marche du vent qui s'en allait si loin qu'il ne faisait plus qu'un murmure. Il revenait avec des grondements dans les chênes qui gardaient leurs feuilles mortes, la dépouille de l'été. Des troupes de corbeaux tournaient sur les châtaigneraies où ils se posaient quelque temps immobiles, elles repliaient le bec rabattu, singulier fruit noir. Ils s'envolaient tous ensemble comme à un commandement secret. Du fond de la vallée s'élevait une brume, une grosse nuée blanche qui roulait et que le soleil pouvait à peine dissiper. La tête des trembles de rive semblait flotter. Il y avait dans l'air des cris qui paraissaient s'élancer des choses. L'appel des bergers se mêlait au bruit de l'eau débordée, au vent et aux coups de pluie.
Thank you.
Pour Jean Blanza, c'est un extrait de son roman La Gartempe. Les pluies avaient cessé et le gel était arrivé. Novembre. Les pluies avaient cessé. Les gelées des nuits blanchissaient les matins. Les flaques des chemins durcis étaient couvertes de carreaux de glace que les pas faisaient craquer. Mais partout, dans la campagne, à travers les prés, le long des chemins, des moindres ravins, couraient des eaux rapides, noires et allègres, jaillies d'on ne sait où. Le soleil régnait dans le ciel vide, le vent faisait palpiter l'air doré, prisonnier des ramures. Tout était clair, sonore, pur.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Paul Lavergne, dans son roman Printemps, nous fait part de sa détestation du mois de novembre. « Comme je déteste cette saison !» déclarait la mère, le soir à la veillée en tricotant un long bas noir. Le jour n'est pas levé qu'il recommence à faire nuit. On n'a pas le temps de finir son ouvrage. Tout y est gris, tout y est froid et la brume m'étouffe. Des nuages bas, poussés par le vent d'ouest, traversaient le ciel en convoi fumeux qui lâchait de temps à autre une poignée de gouttes. Les chênes semblaient gluants et les branches des bouleaux, à chaque rafale, se courbaient comme pour balayer le sol. Le chemin de terre rouge filait dans la nudité de la plaine, se perdait là où s'alignent les chênes sur la grisaille de l'horizon. Les maisons du village des Loges s'y entassaient comme les brebis d'un troupeau. Et les nuages couraient sans trêve en fumant comme des trains. Rosalie s'arrêtait pour embrasser cela, son maigre visage giflé de vent. À la cime des baliveaux, derrière les Tuileries, se balançaient des nids faits de branchages qu'on n'apercevait que l'hiver. Des nuées tiraient un rideau devant la colline. Le laurier sauce du jardin arrondissait sa boule noire. Dans le buisson du pré, les sapins ressemblaient à des chalets le long d'une rue. Les houes flambaient, le gui brillait discrètement dans les pommiers et le lierre, autour des chênes ébranchés, frémissait d'un vol de moineaux.
J'ai une gomme dans la main et j'efface les canards. Dans le ciel blanc du matin, je suis le brouillard. Ta-dam, ta-dam, ta-da-da-da-da-dam, ta-dam, da-dam, da-da-da-da-dam, ta-dam, ta-dam, ta-da-da-da-dam, ta-dam, da-da-da-dam.
Novembre, c'est la pluie, mais c'est aussi le brouillard. Écoutons Jean Blanza, c'est un extrait du Faussaire. Cette nuit d'hiver, novembre, décembre, janvier, est sombre, pluvieuse, parcourue de vent tiède. Des souffles circulent au ras du sol. On entend frissonner les buissons qu'on ne voit pas. Plus haut, d'autres souffles, plus puissants, plus libres, vont et viennent dans le ciel très pâle. Ils passent et repassent d'une rive à l'autre de la Gartempe. La cime des peupliers parfois se courbe et se relève en sifflant. La bruine, qui erre dans l'ombre comme une fumée, s'épaissit par moments et l'averse crépite encore sur la rivière quand elle tue ailleurs. Ces jeux de l'ombre, du vent, de la pluie semblent prisonniers de la vallée où ils tournent en rond, mais dans un silence relatif, des accalmies, une rumeur marine révèle qu'il règne sur tout le pays. Un brouillard se lève sur le vallon, dès le crépuscule, veille et se renforce la nuit, résiste au soleil jusqu'à midi. Bien des haies ne sèchent jamais. Les nuits sont froides, les gelées blanches sont en avance de plusieurs semaines, le vallon devient vide, silencieux, dans sa profondeur d'ensemble. Mais autour de soi, on entend mille bruits furtifs. Ça et là, qu'il ait plu ou non, des gouttes teintent sans cesse. Quelqu'un semble froisser les feuilles mortes, quelqu'un qui n'approche pas, qu'on ne voit pas, et qui disparaît sur place. Charles Sylvestre, dans Le Voyage rustique, s'intéresse lui aussi au brouillard. Le vent d'ouest s'est levé dans cette campagne du centre. De tous les vents, c'est le plus mystérieux. Il accourt des profondeurs du monde dans une odeur de terre ouverte par la charrue. Il rôde autour des maisons paysannes. Il s'irrite. Les feux de bois allumés au temps des veillées repoussent les assauts d'un monstre obscur. En ce mois, les taillis perdent leurs feuilles. Seuls les chênes garderont tout l'hiver, en signe de haute puissance, une frondaison de rouille. Ce matin, le pays est embrumé. Bruits et rumeurs arrivent, semble-t-il, par d'étranges routes de silence. Au bord de ce pré, deux feuilles d'un grand figuier descendent parallèlement, agitées comme deux mains d'un corps invisible qui va s'abattre dans l'herbe. À l'horizon, les bruyères éteignent leurs petits brasiers de fleurs. Les bosquets de houx à mine guerrière continuent de rire et de faire feu de leurs baies rouges avivées. Le paysan, ennemi du rêve, laboure déjà et cherche la vie. Sa charrue est la vieille amorce où elle se prendra. J'entends le craquement du joug au front des bœufs dont le pas s'enfonce dans les mottes sans bruit. Le brouillard est plus épais. L'attelage gagne la lisière d'un champ qui perd sa forme, devient une parcelle de songe. L'homme s'efface. Sa voix est inquiétante comme un appel qui sortirait d'un buisson, d'un arbre et non d'une bouche humaine. Pour Louis Peignot, l'écrivain de Roussac, dans « Au pays des bruyères et des étangs », novembre en basse marche, c'est par contre une féerie. Vers la Toussaint, nos regards s'émerveilleront d'un tableau d'une autre qualité. Le printemps limousin n'est qu'un petit maître. C'est l'automne qui est chez nous le plus prestigieux des peintres. La vaste forêt verte qui recouvre ses pentes est en train de prendre sa parure d'hiver. Une magnifique robe rousse, agrémentée çà et là de tendres couleurs d'or pâle. C'est un embrasement de teintes fauves. Sur les talus, avec de hautes fougères, dans les bois, avec les chênes et les châtaigniers, les bouleaux égrènent au vent d'automne leurs feuilles menues. Tous ces flocons roux et jaune pâle voltigent autour de votre voiture, caressent votre pare-brise, puis s'en vont, se poser sur les talus, comme le fait la neige en son temps. Le soleil limousin, toujours un peu timide, prend lui aussi quelques hardiesses. Il s'amuse, espiègle, à des jeux de cache-cache qui nous offrent de féeriques effets de lumière. Ces paysages, qui nous avaient paru beaux, certes, mais graves et austères, s'éclairent de fantaisie. Toute la gamme des teintes rousses et jaunes vient frapper nos regards éblouis. La cime des bouleaux se dore à la première, au soleil déclinant, puis c'est le tour des chênes de flamboyer de lumière rouge. Et d'un tournant à l'autre, les coloris changent, deviennent plus ardents ou plus pâles.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant.
Novembre, c'est aussi le vrai mois de la châtaigne, que je vais illustrer avec trois petits textes de Charles Sylvestre, extraits du Voyage rustique et de Au soleil des saisons. Il fit l'éloge des châtaignes blanchies. Il n'avait pas besoin de dire à un Limousin que c'était un mets délectable, un des plus délicieux du monde. On dépouillait les fruits de leur écorce et de leur peau selon une recette immuable. Une fois bien blanc, il devait cuire à point sans jaunir au fond du pot à feu doux. Odorant, fumant, on les versait au milieu de la table sur une toile de chanvre. Arrosé de lait, rien n'était plus agréable à manger sur la terre. On savait alors préparer ce plat qui exige beaucoup de soins et d'adresse. Certains assuraient que les châtaignes étaient pesantes à l'estomac, à propos de mauvais plaisant. Accompagné d'un bon petit cidre pétulant, elle passait très bien. « Comment faites-vous, Jeannette ?» demandai-je tandis que j'écrasais dans le lait ces châtaignes au parfum subtil. Ben, « C'est tout simple. On plume les châtaignes, on laisse pas un bout d'écorce, hein. Faut qu'elles soient nettes comme le dedans de la main. On fait bouillir de l'eau. On les plonge dans l'eau bouillante, on enlève le pot et il faut laisser tremper un peu. Vous prenez le bouéradour en forme de croix de Saint-André, cet ustensile en bois avec des dents, on remue sans plaindre sa peine. On nettoie les châtaignes récalcitrantes au doigt et à l'œil, qu'elles soient bien blanches. On les jette dans un tamis et on secoue. Toutes les peaux s'en vont. On lave encore. On met au pot avec de l'eau une pincée de sel, on fait dessous un feu clair, on laisse bouillir quelque temps, puis on décroche le pot, on enlève l'eau et on remet à cuire, après avoir mis une couenne de lard au fond du pot et une serviette par-dessus pour l'étouffement. Et il faut veiller à la cuisson. Je ne suis pas bien fine, mais j'ai connu que la cuisson, c'était la moitié de la réussite. Comme nous revenions à la maison, il parla des fruits du châtaignier. Il voyait une nourriture exquise et saine. Autrefois, on en mangeait beaucoup dans nos campagnes. Le châtaignier, c'était l'arbre à pain. De la récolte jusqu'en janvier, les hommes du pays mangeaient verte la châtaigne, puis sèche jusqu'à Pâques. Il y avait bien des façons de la faire cuire, rôtie sous la cendre ou grillée dans une poêle percée. Bouillie, elle avait moins de saveur. Mais les vieilles gens édentés l'aimaient mieux ainsi. Novembre, c'est aussi la Toussaint, le chrysanthème et le 11 novembre, que je vais illustrer avec deux poèmes, le premier de Charles Sylvestre et le second de Georges Descheras. Le chrysanthème. C'est le mois des cruels départs, près des croix où l'on s'agenouille, ô mort, le chrysanthème rouille lors de ses longs cheveux épars. Le grand ciel pleure doucement, c'est le mois cruel des alarmes. Et le chrysanthème, en dormant, ramène et tord indolemment ses cheveux blonds mouillés de larmes. Le 11 novembre. Guerriers, mes frères, tous les ans, lorsque nous quitte la palombe, vous veniez m'agacer les dents en piétinant près de ma tombe. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Vous arrivez, chers camarades, repus, nantis et bien vivants, pour vous pourlécher de tirades sur les vertus des combattants. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Vos femmes sont là, bien fardées, portant renard, loutre, astrakhan, offrant leurs perruques laquées aux fines lances de l'OTAN. Mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et vous aussi, vous paradez, transporteur de vaines médailles, la main droite au bord du béret, et les tripes rêvant ripaille. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Vos allocutions me révoltent. Vous vous prenez pour des héros. Si Satan faucha ma récolte, le destin finit vos travaux. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche, intitulée aujourd'hui « Quelques images de novembre en Basse-Marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Jean Blanza, de Louis Peignot, de Georges Deschera et de Paul Lavergne. Pour les accompagnements musicaux, j'ai fait appel au compositeur Luigi van Beethoven, René Aubry, aux chanteurs et chanteuses Anne van der Love, Michel Bernard, Charlotte Grenat, au groupe Maluzerne, Onze Défends et Les Éoles que nous écoutons en ce moment. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Gérard Schillinger et Philippe Quicampoix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
petites et grandes histoires de la basse marche.